7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Allez, on reste en Tunisie, gros plan sur une loi datant de l'ère Ben Ali, la loi sur le cannabis.
Oui, une loi ultra stricte, ultra répressive et un peu fourre-tout, Nicolas, et toujours appliquée. 5 jeunes artistes tunisiens, dont 3 particulièrement connus, reconnus, viennent d'en faire les frais. Ils ont été condamnés à 1 an de prison ferme plus amende pour simple consommation de cannabis. À Tunis, les explications de notre correspondante Camille France.
3 de ces jeunes ont été interpellés chez l'un d'eux en pleine journée sur la base de soupçons d'activités terroristes, une fausse piste. Ils seront finalement quand même arrêtés pour consommation de cannabis et condamnés, vous l'avez dit, à 1 an ferme. Il s'agit d'Atef Maatala, Fakri El Khessal et Alaeddine Slim, artistes plasticiens et réalisateurs dont les œuvres ont été diffusées dans de prestigieux musées européens. Les 2 autres jeunes arrêtés à la sortie d'un festival de cinéma ont aussi été condamnés sous prétexte qu'ils avaient du papier à rouler, selon leur avocat, des feuilles pourtant en vente libre dans le pays. Ils ont refusé de se soumettre à un test de dépistage. La loi ne stipule pourtant rien en cas de refus. L'affaire fait grand bruit. Une pétition circule pour demander leur libération.
Et cette affaire souligne évidemment le caractère toujours arbitraire de bon nombre d'arrestations, aujourd'hui encore en Tunisie. On en parlait il y a quelques instants avec vos invités, Nicolas. Et puis n'en déplaise aux partisans de ce tout répressif, la loi 52 sur la consommation de drogue est en plus inefficace, Camille.
La consommation de cannabis est condamnée à 1 an minimum et jusqu'à 5 ans pour les autres drogues et le deal. Et il n'existe pas de circonstances atténuantes ni de travaux d'intérêt général. Cette loi n'est pourtant pas dissuasive car 29% des détenus du pays sont incarcérés pour infraction liés aux drogues, dont simple consommation. Depuis la Révolution, des Tunisiens se mobilisent pour demander la réforme de cette loi qui n'a pas évolué depuis Ben Ali, comme le collectif Al-Sajin 52, Prisonnier 52. Une réforme soutenue jusqu'au sein du système pénitentiaire. Sofiane Mezrich, sous-directeur de l'exécution des peines à la Direction générale des prisons.
Bien sûr, c'est surpopulation carcérale. La surpopulation concernant les détenus qui ont commis des infractions relatives à la consommation de drogue, on empêche d'améliorer les conditions de détention. L'emprisonnement du consommateur de drogue, généralement un coût cher, en plus, au niveau social, la perte de travail, baisse des revenus de la famille, traumatisme pour les enfants, échec de scolarité. S'il exécute une peine alternative dans le milieu ouvert, les effets sociaux vont être favorables. Sinon, c'est un cercle vicieux.
Et cette loi qui touche avant tout la jeunesse a même un effet pervers, disent les associations, car dans les geôles tunisiennes, les détenus vivent ensemble, quel que soit le motif de leur incarcération et avec les risques que cela implique. Écoutez le témoignage de cet ex-détenu condamné à 1 an de prison pour avoir fumé 1 joint.
C'est-à-dire, si on nous protège de nous-mêmes, eux, la société, il y a d'autres façons pour nous protéger. Et quand vous tombez, vous vous trouvez dans une cellule avec une centaine de gens où on pourra avoir d'autres contacts plus forts. On ne parle pas seulement de drogue, parce qu'il y a tous les délinquants, tu as des contrebandiers, des tueurs, des vendeurs d'armes, des islamistes et tout ça, ils sont dans la même chambre, tu vois, et dans la même cellule, c'est ça. Et si le contact passe bien, on pourra avoir tous les tuyaux, tu vois. Moi, je comprends pas, la loi 52, ça ne change pas les choses, ça ne fait pas avancer. Et les jeunes fument encore.
Voilà, ça ne fait pas avancer les choses. Et cela cache peut-être aussi, Camille, autre chose.
La jeunesse tunisienne est sous pression. Les moyens de s'évader dans le pays sont rares, les sources d'espoir aussi. Les Tunisiens sont d'ailleurs le premier contingent de djihadistes à destination de Libye, Syrie et Irak. Et pourtant, les pouvoirs publics continuent à briser cette jeunesse. L'avocat Razim Rabet, membre du collectif Al-Sajin 52, s'interroge à qui profite cette loi. Les policiers, les magistrats, les gouvernants. Il évoque toute une mafia.
Camille Lafrance, correspondante de France Inter à Tunis. Toujours à propos de stupéfiants, le dernier rapport des Nations Unies contre la drogue et le crime. Dernier rapport qui révèle une chute spectaculaire de la production de pavots en Afghanistan. Près de 3300 tonnes cette année contre 6400 en 2014. Des surfaces cultivées qui ont reculé de près de 20% en 1 an. Évidemment crucial quand on sait que la fleur afghane est à l'origine de près de la moitié de l'héroïne produite chaque année scanner dans le monde. Alors grâce à quoi? À qui? Aux autorités afghanes qui luttent avec leurs faibles moyens contre la culture et le trafic, grâce aux rares ONG encore sur place et qui tentent d'orienter les paysans vers d'autres plantations. Eh bien, absolument pas, pas du tout. C'est en fait simplement la sécheresse qui fait reculer la production. Le peu de pluie tombée cette année est l'arme la plus efficace contre le pavot, dit le rapport, pas les politiques.
Et comme chaque jeudi, place maintenant à notre DER de Bruxelles, la dernière trouvaille ou la dernière info en provenance directe des instances européennes, Michael.
Et ce soir, on va parler claques, les deux claques monumentales que s'est prise hier la Commission européenne. Bonsoir Quentin Dickinson en direct de Bruxelles.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas.
Alors Quentin, commençons par la première gifle sous forme d'une question qui a dit, et écrit d'ailleurs, la Commission européenne a violé le droit de l'Union européenne.
Eh bien, la réponse est claire. Il s'agit du tribunal de première instance de l'Union européenne basé à Luxembourg. Cette première affaire est tellement simple qu'on se demande comment la Commission européenne a pu à ce point se piéger elle-même. Une directive de 2012 faisait obligation à la Commission d'adopter au plus tard le 13 décembre 2013 les critères scientifiques permettant d'identifier les produits chimiques biocides susceptibles de perturber le système endocrinien chez l'homme comme chez l'animal. C'est vraiment une préoccupation majeure de santé publique. Mais voilà, pour des raisons encore inconnues, la Commission s'est endormie sur le dossier. Il a fallu une plainte de la Suède l'année dernière pour que les juges européens constatent la carence de la Commission, situation pas unique dans les annales, mais tout de même assez rare, et écrivent noir sur blanc qu'en effet, la Commission européenne, pourtant garante des traités, avait par son inaction manqué à ses obligations et donc avait effectivement violé le droit européen.
Bon alors, quid maintenant de la seconde claque, Quentin ?
Eh bien, l'autre claque vient aussi de Luxembourg, et dans ce cas, les juges européens ont relu avec soin le texte de la décision par laquelle la Commission, en 2010, a infligé des amendes à 11 grandes compagnies aériennes pour entente illicite dans la tarification du fret aérien. Alors, Michael, vous savez comment cela se passe quand un grand nombre de rédacteurs spécialisés concoctent un long texte commun. On a beau se relire, il subsiste inévitablement des coquilles et des incohérences. Ce qu'on appelle ici les ayatollahs de la libre concurrence ne font apparemment pas exception à la règle. Les juges ont poliment fait remarquer que dans le corps de la décision, il était question de chefs d'infraction individualisés par compagnie aérienne, tandis que dans les conclusions, toutes étaient logées à la même enseigne. Cette incohérence entraîne donc l'annulation immédiate d'amendes pour pas moins de 790 millions d'euros, dont 307 millions, divine surprise, reviennent à Air France KLM.
Divine surprise. Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Merci. En bref, Nicolas, à deviner quelle photo faisait la une ce matin de quasiment toute la presse espagnole.
J'ai une petite idée.
La photo d'un cocard. Voilà. Et pas n'importe quel œil gonflé et violacé. Non, celui de Mariano Rajoy lui-même, le chef du gouvernement conservateur espagnol, victime d'un très violent coup de poing au visage hier, lors d'un déplacement électoral dans une petite ville de sa Galice natale, dans le nord de l'Espagne. Dans le choc, les lunettes du Premier ministre ont volé en éclats. L'auteur du crochet, un jeune homme de 17 ans, a aussitôt été interpellé. Ses motivations sont encore plutôt obscures. Mariano Rajoy, lui en tout cas, bien, nonobstant le cocard. Il va même continuer ses bains de foule jusqu'aux législatives de dimanche. Seule différence, son service de sécurité sera renforcé. Il faut dire que la facilité avec laquelle le jeune agresseur s'est approché de lui laisse pantois. Allez, pour finir, à qui pensez-vous quand vous entendez ça ? Réponse.
De très bons et de très vieux souvenirs, Michael. N.W.A.
Les rappeurs américains de N.W.A., les pionniers du gangsta rap, véritable star aux États-Unis et surtout à Compton, la banlieue sud de Los Angeles, où le groupe s'est formé. Rappeurs qui connaissent ce soir une nouvelle consécration, puisqu'après trois sélections et trois échecs, ils viennent enfin d'inscrire leur nom au Rock'n'Roll Hall of Fame. Il leur a fallu plus de 10 ans de carrière, plus de 10 millions d'albums vendus rien qu'aux États-Unis et un film biopic Straight Outta Compton resté numéro 1 au box-office US pendant près d'un mois cette année. À demain.
À demain.